Amis auditeurs, bienvenue à vous tous pour notre émission La sainteté au quotidien, vivre ce temps de carême avec la parole de Dieu. Et plus particulièrement, nous méditons à partir des 10 commandements de cette loi d'amour, la Torah, le bon chemin, ces 10 paroles qui sont donc un chemin de vie, où Jésus n'abolira pas ces 10 paroles données par Dieu lui-même à Moïse et pour son peuple, mais où il va le porter à son accomplissement, à sa plénitude. Il résume ainsi ce qu'on appelle la règle d'or, il résume ainsi ces 10 paroles en disant « Aimez Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, tout son esprit, et aimez le prochain comme soi-même. » Et nous avons vu donc à travers le premier commandement différents points très importants qui on le voit bien, donc nous révèlent comment donner cette priorité à Dieu. Parce qu'aimer Dieu, c'est dans ce premier commandement, dans cet ordre qui nous est donné, c'est très important, c'est capital, parce qu'il est la source même de l'amour, il est l'amour total. Si nous ne puisons pas à la bonne source, comment pouvons-nous véritablement aimer? Comment pouvons-nous comprendre l'amour? Pour cela, il nous faut connaître Dieu, il nous faut approcher Dieu. Et nous l'approchons dans une attitude amoureuse, dans une relation non pas de crainte, nous l'avons vu, non pas fondée sur la peur, sur un Dieu, donc ça c'est ce qui révèle aussi tout le côté superstitieux, un Dieu qui peut se révéler méchant si on n'accomplit pas ce qu'il exige de nous. Mais cette relation amoureuse envers un Père qui est en train de prendre soin de nous et de nous indiquer le chemin de la vraie vie. De ne pas nous fourvoyer dans ce qui ne nous portera pas au bonheur, dans ce qui, au contraire, détruira même toute notre capacité de bonheur et d'avenir. Nous avons parlé dans la précédente émission de la divination et de la magie, où toutes les pratiques de magie ou de sorcellerie par lesquelles on prétend domestiquer les puissances occultes pour les mettre à son service et obtenir un pouvoir surnaturel sur le prochain, fût-ce pour lui procurer la santé, sont gravement contraires à la vertu de religion. Et particulièrement, j'ai ouvert une parenthèse qui me semble très importante pour nous, celle de l'autre, ou de tout ce que nous appelons en Corse la magie blanche. Je sais que là, c'est un discours ou une annonce qui est difficile parce qu'il y a beaucoup de résistances qui sont liées affectivement à tout ce qui est traditionnel, parce qu'on l'a reçu de nos grands-mères, etc. Mais attention, il faut revenir à l'histoire même. Donc je vous parlais de ces pratiques qui étaient des prières païennes, qui ensuite, avec le christianisme, on a simplement changé le contenu, on a enlevé les divinités païennes, et puis on y a mis Jean-Baptiste, ou Dieu, ou quelques Ave Maria, des Notre Père, etc. Donc, mais pour cela, c'est l'invocation, ce n'est pas ces prières en soi qui guérissent, mais c'est l'invocation à des puissances occultes. Et attention, parce que de toute façon, il n'y a pas, je vous lisais hier un article fait par le père François Dominique qui a reçu le ministère de l'exorcisme pour la Corse, pour la Corse, la Haute-Corse, eh bien, où il disait, ces guérisons ne sont en fait que des soulagements de mots, mais il n'y a pas une guérison en profondeur puisque ces mêmes personnes qui ont recours à ces pratiques, eh bien, ils ont recours sans cesse. Donc, ce qui prouve bien qu'il n'y a pas de véritable guérison. Il y a toujours une dépendance. Et bon, on pourrait en dire encore beaucoup, mais je vous renvoie en tout cas à méditer sur le catéchisme de l'Église catholique, ce passage, donc lié au premier commandement, divination et magie. C'est au paragraphe 2115, 2116, 2117. Et puis également, si vous le souhaitez, vous pouvez nous le demander. Nous vous procurerons le magazine La Voix de Saint-Antoine où est paru l'article du père François Dominique sur ce sujet. Vous pouvez d'ailleurs aussi venir consulter le père François Dominique ici même au couvent. Alors, pour tout ce qui concernerait dans ce domaine, et si vous voulez plus d'explications, Voilà, n'hésitez surtout pas. Nous poursuivons. Toujours lié au premier commandement, l'irréligion. Le premier commandement réprouve les principaux péchés d'irréligion. D'irréligion, c'est-à-dire l'action de tenter Dieu, en parole ou en acte, le sacrilège et ce qu'on appelle la simonie. Alors, l'action de tenter Dieu consiste à une mise à l'épreuve, en parole ou en acte, de sa bonté, de sa toute-puissance. Alors, référence, tout de suite, je suis sûr que vous avez en mémoire, vous revient en mémoire, le passage où Satan va tenter Dieu, Jésus dans le désert, en lui disant « Mais écoute, ne sois pas stupide, renonce à cette vie d'anonymat, de clandestinité, où tu te fais passer pour un simple fils de charpentier, avec une maman qui est veuve, qui vit aussi dans une certaine précarité, une pauvreté. Mais plutôt, écoute, fais un miracle, c'est-à-dire jette-toi du haut du temple, à l'heure de midi, là où l'esplanade est donc remplie de monde pour la prière, et les anges, et le démon est très fort, il cite la parole de Dieu, il dit « Les anges ne laisseront pas ton pied heurter une pierre. » Donc tout le monde verra que les anges te recueillent et on comprendra qu'il y a là quelque chose de surnaturel, de divin et tu seras reconnu comme Dieu. Et Jésus va lui opposer la parole de Dieu. « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Qui fait référence donc aux 10 paroles, aux 10 commandements. Il cite un passage du Deutéronome. Le défi que contient pareille tentation de Dieu blesse le respect et la confiance que nous devons à notre Créateur et Seigneur. Il y a toujours un doute concernant son amour, sa providence et sa puissance. C'est aussi refuser l'histoire que Dieu fait avec nous dans la modalité dans laquelle il l'a fait aussi, il nous la propose. Nous rêvons toujours, et le rêve en ce sens-là n'est pas du tout bon, nous rêvons toujours d'un ailleurs extraordinaire ou d'une autre vie complètement détachée de ce que nous sommes. C'est impossible. Il faut être dans la vérité. Mais cette vérité, nous pouvons la vivre d'une manière extraordinaire en présence de Dieu, en faisant sa volonté. Donc attention, ne pas tenter Dieu. C'est une des grandes tentations qu'a Israël, qu'a l'homme aujourd'hui, celui de vouloir sortir de sa réalité. Si la situation dans ma famille, avec ma femme, dans mon couple, avec mes enfants ne me satisfait pas, eh bien, je change, je m'en vais, je change complètement d'histoire. C'est-à-dire, je ne rentre pas dans ce qu'on appelle la croix, dans la volonté de Dieu, qui va être, n'oubliez jamais que la croix, elle ne porte pas simplement à la mort, elle porte à la gloire, à la glorification, à la résurrection. Bien. Parenthèse terminée, on pourrait, c'est sûr, en parler encore beaucoup. Donc, je vous disais, il y a donc, par rapport au principe d'irreligion, il y a trois actions, dont celle de tenter Dieu, en parole ou en acte, ce qu'on appelle le sacrilège. Alors, le sacrilège, bon, ça vous le comprenez, c'est plus facile, je pense, qui consiste tout simplement à profaner ou à traiter indignement les sacrements, les autres actions liturgiques, ainsi que les personnes, les choses et les lieux consacrés à Dieu. Le sacrilège, bien sûr, est un péché grave, surtout quand il est commis contre l'Eucharistie, contre la présence vraiment de Jésus dans l'Eucharistie, puisque dans ce sacrement, c'est le corps même du Christ qui nous est rendu présent substantiellement. Alors le sacrilège, il peut se faire bien sûr même dans l'action qu'on peut mener contre tout ce qui est les personnes consacrées, par exemple, à Dieu, donc même tout ce qui concerne les prêtres, toute la hiérarchie, même le pape et même les chrétiens en eux-mêmes. Est-ce qu'on peut dire que la persécution des chrétiens aujourd'hui est une action sacrilège? Bien évidemment. Également, contre les lieux, lorsqu'on détruit des lieux de culte, voués à Dieu, c'est contre Dieu même qu'on s'attaque. Donc, c'est Dieu même qu'on persécute lorsqu'on persécute un chrétien. Jésus le dira à saint Paul sur le chemin de Damas. Il lui dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alors, on peut comprendre même Saul à ce moment-là qui peut être étonné. Celui qui deviendra Paul, l'apôtre des païens, un des piliers de l'Église. Et on s'est dit, mais comment c'est possible? Moi, je persécute ceux qui se disent de la voix des chrétiens, mais je ne persécute pas Dieu. Et Jésus, donc, d'affirmer, celui qui persécute un chrétien me persécute. Donc oui, c'est une action sacrilège, même ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient. Ne nous voilons pas la face. C'est Un péché très grave, celui, par exemple, qui concerne bien évidemment l'Eucharistie. Alors vous me dites, oui, mais personne ne commet d'action contre l'hostie sainte, c'est-à-dire contre la présence de Jésus dans l'hostie. C'est pas possible. Eh bien oui, bien sûr. Il y a des sectes sataniques, et je vais peut-être vous surprendre, mais même en Corse, où on récupère donc les hosties pour faire des messes noires dans lesquelles on va piétiner, porter des atteintes au Christ même présent dans l'Eucharistie. Donc oui, c'est pour ça que peut-être parfois vous avez vu certains prêtres être très vigilants dans la manière dont nous recevons l'Eucharistie. Et vous savez que j'en profite pour dire que au moment de la communion, si vous communiez dans la bouche, donc là il n'y a pas de problème. Si vous communiez avec les mains, sachez que vous devez prendre l'hostie, la porter dans votre bouche devant le prêtre. Dès que vous recevez l'hostie sainte dans vos mains, vous la portez tout de suite à votre bouche devant le prêtre. Non pas en chemin, non pas en partant, non pas plus tard à votre place, parce que le prêtre ne peut pas savoir ce qu'il est fait de l'hostie, de l'Eucharistie, et ça peut être très grave parce que il est arrivé parfois que certaines personnes le prennent, le mettent dans leur poche, sous leur veste, pour pouvoir ensuite la porter pour des rites qui sont très graves, des rites sataniques. Donc c'est des sacrilèges qui sont faits contre l'Eucharistie, et ça c'est un péché donc d'irréligion, très grave. C'est une profanation, vraiment, de la présence de Dieu. Donc, attention, même, c'est vrai qu'on peut aller même plus loin, dans le sens où, si nous-mêmes, la manière dont nous recevons parfois l'Eucharistie, mais bon, ça c'est à la conscience de chacun et aussi dans le cheminement que nous faisons dans l'Église avec un prêtre aussi, donc à bien discerner. Alors juste ce que dit aussi le catéchisme de l'Église catholique sur l'Eucharistie, pour dire que le sacrifice du Christ et le sacrifice de l'Eucharistie sont un unique sacrifice, c'est une seule et même victime, c'est le même qui offre maintenant par le ministère des prêtres qui s'est offert lui-même sur la croix, seule la manière d'offrir diffère. Et puisque dans ce divin sacrifice qui s'accomplit à la messe, ce même Christ qui s'est offert lui-même une fois de manière sanglante sur l'autel de la croix est contenu et immolé de manière non sanglante, ce sacrifice est vraiment propitiatoire. L'Eucharistie est également le sacrifice de l'Église, l'Église qui est le corps du Christ, qui participe à l'offrande de son chef. Avec lui, elle est offerte elle-même tout entière. Elle s'unit à son intercession auprès du Père pour tous les hommes. Dans l'Eucharistie, le sacrifice du Christ devient aussi le sacrifice des membres de son corps. La vie des fidèles, leurs louanges, leurs souffrances, leurs prières, leur travail sont unis à ceux du Christ et à sa totale offrande et acquièrent ainsi une valeur nouvelle. Le sacrifice du Christ présent sur l'autel donne à toutes les générations de chrétiens la possibilité d'être unis à son offrande. Et enfin, la simonie, donc troisième action d'irreligion. La simonie, elle se définit comme l'achat ou la vente des réalités spirituelles. Ça vient de Simon le magicien, simonie. Alors, Simon le magicien qui voulait acheter le pouvoir spirituel qu'il voyait à l'œuvre dans les apôtres. Et Pierre va lui répondre, « Périsse ton argent et toi avec lui, puisque tu as cru acheter le don de Dieu à prix d'argent. » Il se conformait ainsi à la parole de Jésus, « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Il est impossible de s'approprier les biens spirituels et de se comporter à leur égard comme un possesseur ou un maître, puisqu'ils ont leur source en Dieu. On ne peut que les recevoir gratuitement en lui. Alors, en dehors des offrandes qui sont fixées par l'autorité compétente, le ministre ne demandera rien pour l'administration des sacrements, en veillant toujours à ce que les nécessiteux ne soient pas privés de l'aide des sacrements à cause de leur pauvreté. L'autorité compétente fixe ses offrandes en vertu du principe que le peuple chrétien doit subvenir à l'entretien des ministres de l'Église. Et l'ouvrier mérite sa nourriture. Voilà, on se retrouve pour notre prochaine émission où on conclura, enfin je pense qu'on arrivera à conclure cette fois-ci sur le premier commandement, avec, on parlera notamment de l'athéisme, on refera un petit peu le point sur ce qui a été dit dans toutes ces différentes émissions concernant cette première injonction, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton esprit. Le Seigneur ton Dieu est l'unique, tu n'auras pas d'autre Dieu que lui.